Bonjour à tous. Donc, encore une fois, nous sommes très heureux d'accueillir Pierre Naveau dans les salons de la librairie Mola, en partenariat d'ailleurs avec la librairie Mola. Pierre Naveau, qui vient nous présenter son nouveau livre, Ce qui de la rencontre s'écrit. Donc, nous allons pouvoir l'entendre à propos de la rencontre et de son livre. Pierre Naveau, donc, je peux présenter. Comme il est donc membre de l'école de la cause freudienne et membre de l'Association mondiale de psychanalyse, maître de conférence au département de psychanalyse de Paris 8, enseignant aussi à la section clinique de Paris. Et donc voilà, je vais lui laisser la parole, ainsi qu'aux deux discutants que vous devez connaître peut-être, Philippe Lassagna, psychanalyste à Bordeaux, membre de l'école de la cause freudienne aussi et de l'Association mondiale de psychanalyse, et Rodolphe Adam, psychanalyste à Bordeaux aussi, membre également de l'école de la cause freudienne et de l'Association mondiale de psychanalyse. Je leur laisse la parole tout de suite.
Tout à l'heure, on m'a dit, avant de rentrer, que je pouvais te présenter, donc ça vient d'être fait, mais je pourrais faire la présentation un petit peu différente en disant qu'au fond... On s'est rencontrés il y a une trentaine d'années, et qu'au fond, ce qui m'a frappé dans la préface d'Éric Laurent à ton livre, c'est qu'il y parle de ton style. Et en effet, tu as un style très particulier depuis le départ. Et ce qui n'a pas été dit, je crois, c'est pas dit non plus dans la quatrième couverture, c'est... tu as été analyste de l'école.
Oui.
Donc tu as fait la passe et tu en as témoigné. Et au fond, ce qui pour moi marque ton style, c'est évidemment un goût pour la lettre, mais ça tu n'es pas le seul. Mais tu as aussi un goût pour le théâtre, au bon sens du terme. Et je trouve que ta façon d'aborder la psychanalyse est toujours, il me semble, tenue particulièrement compte du théâtre et particulièrement compte aussi de la parole au théâtre, c'est-à-dire le fait que dans la psychanalyse, l'énonciation, c'est très important. Et donc, tu te caractérises un petit peu par un souci de l'énonciation particulier, et tu as une façon de dire... et donc d'écrire, je crois qu'il y a la conséquence, qui t'est propre. Voilà, c'est surtout ça qui m'a frappé. Alors, il y a aussi autre chose qui pourrait, où je me sens proche amicalement de toi, c'est que tu t'intéresses beaucoup aux femmes. Il me semble, enfin du moins, tu écris beaucoup, tu réfléchis beaucoup sur la question de la féminité, et donc, depuis longtemps, et donc je crois que ce livre en témoigne, et avec quelque chose qui est difficile dans ce domaine, c'est de ne pas tomber dans la diffamation, bien sûr, et je crois que tu évites l'obstacle, donc, et tu parles, je crois, des femmes d'une façon qui leur sera agréable, il vaut mieux, puisque maintenant, d'après les dernières statistiques, elles constituent à peu près 85%. Des gens à qui nous nous adressons, du moins quand nous parlons dans nos journées, par exemple. Donc, ça doit être une question qui viendra tout à l'heure sur cette féminisation accélérée, les problèmes qu'elle pose. Alors, je crois que j'ai à peu près dit beaucoup de choses. Qu'est-ce que je peux dire d'autre aussi dans la présentation que dans ces années... Pendant ces années, malgré que tu sois quelqu'un d'extrêmement sérieux, ce qui se voit dans ton abord logique et dans la petite phrase que tu mets en exergue de Ostinato Rigore, tu sais aussi beaucoup rire et tu as beaucoup d'humour. Donc peut-être qu'on le sent dans ce texte de façon implicite. Voilà. Alors je crois que j'ai terminé ma petite présentation spontanée. Et que je peux te te passer la parole, c'est ça qui est prévu. Hein, voilà.
Je te remercie beaucoup. Ce que tu dis me touche. Peut-être puis-je, pour commencer, poser les questions les plus simples qui soient. Je me suis intéressé, en effet, à la rencontre et je tiens à dire sur ce point que s'intéresser à la rencontre, ce n'est pas la même chose que s'intéresser au couple. Je ne sais pas si j'aurai quelque chose à dire à propos du couple, qui peut être en effet un thème de débat. Ce qui donc m'a passionné, c'est plutôt le fait que c'est chez le docteur Lacan qu'en effet j'ai saisi cela. Il m'a semblé que Lacan avait cet intérêt-là pour la rencontre, et en particulier, mais pas seulement, pour la rencontre entre un homme et une femme, ou entre une femme et un homme. La question étant, est-ce que la psychanalyse a quelque chose à dire d'inédit à ce sujet? Et est-ce que, en effet, cela intéresse les psychanalystes? Je ne suis pas sûr que Freud se soit intéressé à cela, disons, particulièrement. Ce qui ne veut pas dire que, ici ou là, cela ne soit pas évoqué. En revanche, donc, Lacan, lui, en a dit quelque chose. Et là où est la difficulté, c'est que un homme et une femme n'en parlent pas de la même façon. Et il se fait que dans le fil de ce livre, il m'a été demandé pour le prochain numéro de la revue La Cause du Désir d'écrire un article sur les femmes, m'a-t-on demandé, et plus particulièrement sur le corps des femmes. Et j'étais un peu surpris par cette proposition. Et j'ai tout de suite pensé, mais qu'est-ce qu'un homme a à dire à propos des femmes? Après tout, qu'est-ce qu'il en sait s'il est un homme? Et surtout, si l'on a cette idée à partir de la psychanalyse, je pense que la psychologie, la sociologie, l'ethnologie, voire la philosophie, prendraient certainement les choses autrement. Mais enfin, il me semble qu'à partir de la psychanalyse, il s'agit de traiter une difficulté majeure, qui est qu'entre l'homme et la femme, il y a un mur. Que Lacan, chemin faisant, a souligné à l'aide d'une proposition incompréhensible, qui n'a pas été comprise, mais qui a toute sa force, qui est « il n'y a pas de rapport sexuel ». Ce « il n'y a pas » a frappé les esprits. Comment ça, docteur Lacan, mais est-ce qu'il n'y a pas de rapport sexuel? Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Et par rapport à cela, pour rester dans, dans cette tonalité-là, il est arrivé à Lacan de parler de l'amour avec un jeu de mots en renvoyant l'amour à ce qu'il a appelé l'amour. Jacques-Alain Miller laissant entendre un jour qu'il y avait là, de la part de Lacan, une pointe de moquerie. Le mur contre lequel on se cogne. Il y a donc là quelque chose d'une dureté que Lacan a tenu à évoquer dès lors qu'il s'est avancé à parler des rapports entre les hommes et les femmes. Et ça m'a d'autant plus frappé que je me souviens de, comme beaucoup d'entre nous, de ce qu'il a pu dire à propos de l'amour, mais là c'était non pas dans les années 70, mais dans les années 1950. C'est d'ailleurs un vers que j'ai trouvé réévoqué par Philippe Lassagna, il n'y a pas très longtemps, dans l'un de ses textes, qui est cette phrase étonnante, « L'amour est un caillou riant dans le soleil. » Je l'évoque parce que, encore une fois, le caillou, c'est de la pierre. Je veux dire, c'est quelque chose, encore là, qui évoque une dureté. L'on pourrait, d'ailleurs... ça n'a peut-être pas encore été fait, l'on pourrait réfléchir à cette métaphore de l'amour comme un caillou riant dans le soleil. Donc, si j'ai bien entendu, ce cher caillou, il est tout seul. Et ce qu'il caractérise, c'est la dureté, simplement. Il est, en quelque sorte, éclairé par une lumière qui l'extrait donc de son obscurité. Et surtout, ce qui le caractérise, ce cher caillou, c'est le rire auquel Philippe faisait référence il y a un instant. Et moi, je me suis demandé, comme beaucoup certainement, d'où venait cette phrase « L'amour est un caillou riant dans le soleil ». Je lisais récemment que de la part d'un collègue qui d'ailleurs n'est pas de la même orientation, qui pensait que cela venait d'André Breton. J'ai pensé à une époque que ça pouvait venir de Paul Éluard, mais l'on m'a dit que peut-être était-ce quelque chose qui venait de Lacan lui-même, ce qui est tout à fait possible. Et je trouve que il y a une relation entre la façon dont Lacan a pu parler donc de l'amour, du désir et de la jouissance au début de son enseignement, comme nous nous exprimons, et puis la façon dont il en a parlé à la fin de son enseignement. Je dis cela parce que il y a un mot qui me frappe beaucoup quand Lacan évoque la rencontre à la fin de son séminaire sur l'amour et la jouissance, qui est son 20e séminaire, le séminaire intitulé encore. Ce mot dont il fait usage quand il en vient à parler de la rencontre, notamment dans le dernier chapitre du séminaire, c'est le mot exil. Et en effet, ce caillou, je ne sais pas comment vous le sentez, mais moi je le sens exilé, en effet, enfin exilé dans sa solitude. Et par conséquent, c'est quelque chose sur quoi il faut mettre l'accent, me semble-t-il, c'est que, en ce qui concerne Lacan et le parti qu'il prend, dans le fond, relativement à l'amour, au désir et à la jouissance, eh bien, l'être, qu'il soit un homme ou une femme, l'être, dans la mesure où il est un être parlant, est donc abordé par lui de cette façon-là, dans la solitude de son exil. Ce qui va dans le sens, encore une fois, c'est par là que j'ai commencé, de l'hypothèse d'une impossibilité de départ. La rencontre au départ est impossible. Donc, pour des raisons que je pourrais qualifier de freudienne et de lacanienne. Freudienne, c'est l'un des derniers textes de Freud, Analyse finie et Analyse infinie, qui le met en évidence, les raisons pour lesquelles il y a cette impossibilité, les termes que Freud utilise sont ceux de Angst dans sa langue, c'est-à-dire l'angoisse du côté homme, et celui de Neid, l'envie du côté femme. Et il y a là les deux pôles qui font que ils ne parviennent pas à se rejoindre, Et les raisons lacaniennes. Les raisons lacaniennes, alors lui, Lacan, il a donc pris position en disant que cette impasse telle qu'elle était formulée par Lacan pouvait être dépassée. Mais en revanche, il a donc choisi de formuler cette impossibilité au moyen de la logique. Sa visée étant que il a montré, et cela à la fin des années 60 et au début des années 70, c'est-à-dire que c'est manifestement lié aux événements de mai 68 et au féminisme, il s'est donc avancé sur ce terrain-là en prenant appui sur la logique. Ce qui m'a intrigué, pourquoi faut-il en passer par quelque chose d'aussi complexe que la logique, et c'est aller très loin. Je veux dire que Lacan s'est servi de l'opposition entre la logique aristotélicienne et la logique intuitionniste pour parler des rapports des hommes et des femmes. Ça. Tout, pour montrer quoi ? Pour montrer que les deux côtés de la sexuation, donc, eh bien, se distinguent par un mode de jouissance. Ce sont donc, c'est ce que rappelle Éric Laurent dans sa préface, c'est que cette impossibilité dont je parle tient à cette différence entre des modes de jouissance sur lesquels nous pourrons peut-être revenir un peu plus tard. Mais là où il faut tenir le fil, me semble-t-il, c'est sur le mur, le caillou, c'est-à-dire quelque chose de réel. Et c'est comme ça que je m'explique la chose. S'il y a quelque chose d'aussi réel, qui donc renvoie à un impossible, alors il faut traiter ça par la logique. Parce que là, quand donc, en 1972, 1973 en particulier, quand il consacre son séminaire à l'amour, au désir, à la jouissance et au rapport entre les hommes et les femmes, donc, ne le fait qu'avec ce support, cet appui qui est celui de la logique, alors même que il aurait pu, je ne sais pas moi, se référer à la psychanalyse, à la littérature psychanalytique, à la littérature psychiatrique, ça n'est pas le parti qu'il a pris. Et à mon avis, c'est à discuter, c'est parce qu'il doit considérer, c'est ce que je déduis, il doit considérer que des rapports entre les hommes et les femmes, l'on en parle mal. Et que donc, il a cherché une manière qui serait... Est-ce qu'il faut dire la bonne manière, disons la juste façon de pouvoir traiter quelque chose d'aussi délicat que la relation entre une femme et un homme ou un homme et une femme. Autrement dit, ma thèse, c'est que l'usage de la logique par Lacan a été pour lui une marque de tact. Il a fallu cette complexité-là, cette difficulté-là, pour que il considère qu'il arrive à dire quelque chose de nouveau au sujet de ces fameux rapports entre les hommes et les femmes. Puisque Philippe a prononcé le mot tout à l'heure, le risque, quand on parle des femmes, c'est qu'il s'est amusé, Lacan, avec cela, on les diffame. C'est-à-dire qu'on en parle mal. Et je trouve qu'il y a, je dis ça à la lumière de son dernier séminaire qui a été rédigé par Jacques-Alain Miller et qui a été publié l'année dernière, le séminaire 6, il y a des passages dans lesquels il montre vraiment que la question qui se pose à propos des rapports entre les hommes et les femmes, c'est la manière dont en particulier un homme parle à une femme. Et donc, c'est pas seulement qu'il y a un risque de parler mal de quelque chose, c'est aussi que, et il y a une raison à cela, c'est que l'homme est porté à mal parler à une femme. Il dit cela dans une page qu'il consacre au fantasme d'Hamlet, au moment où il change de façon de parler avec Ophélie. Et je trouve lumineuse, la manière dont, dont Lacan explique ce qui fait que, à un moment donné, Hamlet en vient à mal parler à Ophélie. C'est quelque chose qui a trait, ça vient de quelque chose qui a trait au fantasme. Et donc, ce qui surprend, c'est là-dessus que j'achèverai ce préambule, ce qui surprend, c'est cette phrase que l'on trouve à la fin du séminaire 20, où Lacan dit que dans le fond, ce qui est refoulé, c'est que lorsque il y a eu une rencontre, ou lorsqu'il pourrait y avoir une rencontre, eh bien, l'on ne veut rien en savoir de cette rencontre. Autrement dit, et ça, ça situe en effet la question de la rencontre pour la psychanalyse, parce que c'est une question qui peut se poser avec la littérature, avec la philosophie, en particulier s'agissant de la philosophie avec quelqu'un que Rodolphe Adam aime beaucoup, et moi aussi, qui est Søren Kierkegaard. Clotilde Le Guil me disait un jour qu'il faudrait aussi que l'on parle de la façon dont Jean-Paul Sartre a pu parler de la rencontre. Bref, il y a la rencontre peut être abordée à partir d'autres champs. Mais en ce qui concerne donc la psychanalyse, selon Lacan, il constate que ce qui la caractérise, c'est le refoulement. C'est un « je n'en veux rien savoir ». Et alors, c'est à la lumière de cette remarque de Lacan, qui tend donc à dire que pour la psychanalyse, la rencontre doit être envisagée en fonction du savoir. Est-ce que l'on veut en savoir quelque chose ou pas? Et l'on voit bien que ça entraîne d'autres questions. Est-ce que l'on veut en savoir quelque chose ou pas du désir? Est-ce que l'on veut en savoir quelque chose ou pas de la jouissance? Ce qui m'a conduit pour ma part à saisir ce que veut dire Lacan lorsqu'il dit que la comédie de l'amour vire à partir d'un certain moment au drame. Et ce virage s'explique, selon lui, par ce refoulement. Pour faire entendre cela, je reprendrai volontiers la métaphore du caillou. L'amour est un caillou riant dans le soleil. Je ne sais pas pourquoi, mais ce caillou, je ne le vois pas sur le bord du chemin. Après tout, je n'en sais absolument rien de la situation de ce caillou. Je l'envisagerais volontiers dans un torrent, dans l'eau claire d'un torrent. Et quelque chose comme ça de riant au soleil qui s'apercevrait là. Et il m'a semblé que c'est à l'aide de cette métaphore que j'ai saisi pourquoi Lacan insiste tant sur la contingence de la rencontre, c'est-à-dire sur quelque chose qui à la fois touche à l'instant, à quelque chose du hasard. Dieu sait, si on m'a interrogé là-dessus à propos de la rencontre, pourquoi est-ce que je tiens tant à dire que la rencontre est une rencontre de hasard ? Donc, la contingence, l'instant, et pour Lacan, la contingence implique que l'on en soit marqué. Et pour dire, il pourrait dire la dimension de la rencontre, c'est le fait comme ça qu'il y en a une marque. Lacan choisit de dire la chose parce qu'il articule cela avec d'autres catégories modales de la logique aristotélicienne. Il dit, c'est ce qui cesse de ne pas s'écrire. Donc si ça cesse de ne pas s'écrire, c'est qu'à cet instant-là, il y a quelque chose qui s'inscrit, donc une marque. Alors, pour revenir à la métaphore du caillou, en somme, si j'ai bien saisi ce qu'il considère comme étant le drame de l'amour, c'est que soit oublié cet instant et cette marque qui renvoie à ce qu'il appelle le « je n'en veux rien savoir ». Autrement dit, si je reprends la métaphore du torrent, je proposerais volontiers cette idée que, en quelque sorte, Lacan dit qu'il est souhaitable, pour que la rencontre ait toute sa fraîcheur, que l'amour ne perde pas cette fraîcheur-là, la fraîcheur de la rencontre, eh bien, il faut en quelque sorte que le torrent n'oublie pas la source d'où il vient, d'où il provient. Et que si le torrent oublie la source d'où il vient, il risque de s'assécher. Et c'est ce qu'on appelle la lassitude, l'ennui, la fin de la passion. Dieu sait si on entend parler de cela, mais la passion, ça ne dure qu'un temps. Enfin, pauvres amoureux, qui sont voués à cette extinction de la passion, enfin, etc., etc. Ça, c'est ce que Lacan appelle le drame de l'amour, en effet, qui vient d'un virage que lui, donc, inscrit à partir d'un oubli. Quand l'amoureux ou l'amoureuse oublie cette fraîcheur-là, cette fraîcheur de la source, eh bien, il se lasse, il se détourne. Ce qui implique, en effet, et ça a quelque chose de théâtral, sans doute, ce qui implique, si on veut savoir, puisque Lacan insiste tant là-dessus, si on veut savoir, c'est qu'on se parle. Et comme je le signale à un moment donné dans ce recueil, j'aime beaucoup une pièce de théâtre qui s'appelle « La nuit et le moment » de Crébillon fils. Précipitez-vous à la librairie en sortant et vous verrez que c'est que c'est quelque chose d'extraordinaire parce que ça montre bien que... et ça, c'est le 18e, on voit ça, on sent ça avec Marivaux, on sent ça donc avec Crébillon, c'est que le désir tel que le conçoit donc Lacan vient de la conversation. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est déclenché en ce qui concerne le désir par la parole, par ce qui est dit. Et l'on sait que, pour ça que j'aime bien Stendhal, parce que dans Lucien Lewen, il montre bien que un mot de travers, et puis le désir s'en va. C'est comme ça. C'est-à-dire que vraiment, on ne sait pas assez à quel point le désir, enfin l'excitation du désir, enfin ce qu'il y a de fort dans le désir, dépend de ce qui est dit. Quelquefois, c'est un mot qui décide que les choses aillent dans un sens ou dans un autre. Donc, en effet, en ce qui me concerne, c'est le parti que j'ai pris, c'est mon hypothèse, c'est que pour parler de tout cela, la psychanalyse a un rôle à jouer dans la mesure où pour elle, la psychanalyse, ce qui compte, c'est la parole. C'est ce qui est dit. Et en particulier, en effet, donc, ça tient à la sensibilité, ça tient au ton sur lequel on parle, au rythme, à la vivacité. Enfin, moi, je comprends mal le désir sans la vivacité. Là, je vois pas. Donc, il faut cette tonalité-là, quelque chose de vif, comme ça. Ça s'attrape avec le corps, justement. Ça signifie bien qu'il y a du corps, mais dans la parole. Après, s'ouvre un autre chapitre, mais sans doute en discuterons-nous, qui est que les choses ne sont pas si simples que cela à cause du fantasme. Dans le séminaire 6, il y a une page très intéressante de Lacan. C'est au début du séminaire. Il n'y va pas par quatre chemins. Qu'est-ce que cela veut dire quand un homme dit à quelqu'un, homme ou femme, qu'est-ce que cela veut dire quand un homme dit à une femme, je vous désire? Est-ce que cela veut dire, comme le voudrait l'optimisme moralisant avec lequel vous me voyez de temps en temps rompre des lances à l'intérieur de l'analyse, est-ce que cela veut dire, je cite, je suis prêt à reconnaître à votre être autant, sinon plus de droits qu'au mien, à prévenir tous vos besoins, à penser à votre satisfaction. Seigneur, que votre volonté soit faite avant la mienne. Il suffit d'évoquer cette référence pour provoquer en vous les sourires que je vois heureusement s'épanouir à travers cette assemblée. D'ailleurs, quand on emploie les mots qui conviennent, personne ne se trompe sur la visée d'un terme comme celui-là, si génitale soit-elle. L'autre réponse est celle-ci. Disons, pour employer de bons gros mots tout ronds, je vous désire, bah, ça veut dire je désire coucher avec vous, c'est-à-dire baiser. C'est beaucoup plus vrai, il faut le reconnaître. Mais est-ce si vrai que cela ? C'est vrai dans un certain contexte, social dirais-je. Après tout, vu l'extrême difficulté de donner son issue exacte à cette formulation, je vous désire, on ne trouve peut-être rien de mieux pour le prouver. Croyez-moi, peut-être suffit-il que cette parole ne soit pas liée aux incommensurables embarras et bris de vaisselle qu'entraînent les propos qui ont un sens. Peut-être suffit-il que cette parole ne soit prononcée qu'in petto pour qu'aussitôt vous saisissiez que si ce « je vous désire » a un sens, c'est un sens bien plus difficile à formuler. « Je vous désire » articulé à l'intérieur de soi, si je puis dire, concernant un objet, cette femme, a à peu près le sens d'un « vous êtes belle ». Autour de quoi se fixe, se condense toutes ces images énigmatiques dont le flot s'appelle pour moi « mon désir ». En d'autres termes, je vous désire parce que vous êtes l'objet de mon désir. Autrement dit, vous êtes le commun dénominateur de mes désirs. L'implication du sujet dans le désir fait toujours apparaître cette structure. C'est donc sa réponse à lui, Lacan, qui est la structure du fantasme. Elle y est en droit prévalente. Dire à quelqu'un, ça je trouve cette phrase vraiment très éclairante et qui montre bien sur quoi tout ce que je vous ai raconté bute, vient ce à quoi ça vient se heurter. Dire à quelqu'un « je vous désire », c'est très précisément lui dire « je vous implique dans mon fantasme fondamental ». Voilà où est le problème.
Alors d'ailleurs, formule à peu près identique, 4 ans après, dans le séminaire 10, on a « qu'est-ce que ça veut dire quand on dit à quelqu'un « je veux coucher avec vous » ?» Cela veut dire « je veux mourir un peu avec vous », mourir de rire tout autant.
It's a good one, comme on dit.
Alors, je vous ai préparé deux petites constructions à la lecture de votre livre. La première, en lisant votre livre, je réfléchissais aux statistiques de l'INSEE, qui disent qu'en France, 35% des personnes de plus de 15 ans sont célibataires. À Paris, c'est 51. Et que ce chiffre ne fait que croître depuis les années 60. On a des personnages maintenant de fiction, Ally McBeal, Bridget Jones, qui présentifient des sujets seuls, ou enfin, dont, en tout cas, le partenaire, c'est leur célibat. Alors, en vous lisant, je me disais, eh bien, on mesure dans votre livre la puissance de dérangement qu'est la rencontre. Je vous cite, page 16, « La clinique montre que la rencontre ébranle la position de l'être, dérange la défense. » Page 17, « On ne sait même pas ce qui va arriver. » La puissance de dérangement, c'est aussi que vous terminez par ces mots qui sont superbes d'ailleurs. Pourquoi à cet instant-là, en effet, me vient-il à l'esprit, à moi, homme ou femme, de dire à celle ou à celui qui est ma ou mon partenaire tel mot et non tel autre ? Un mot qui décide, provoque une coupure, éveille le désir et peut changer le monde. Alors, vous montrez là l'enjeu de tremblement de la rencontre. Et vous convoquez en tout cas un mot qui est, alors dans ce chapitre que je conseille tout le monde de lire, en tout cas le 12e, la rencontre de l'impossible au contingent, qui est un commentaire, un dépliage extraordinaire du séminaire 20 sur la question de la rencontre amoureuse. D'ailleurs, dont je me disais que le style, il y avait un petit côté traité de logique, effectivement, mais il y avait un autre aimant aussi à votre écriture, c'est un petit côté roman à suspense, parce que vous prenez point par point et qui se conclut à chaque fois par une question qui relance, est-ce bien cela que Lacan veut dire ? Mais alors donc, ça se lit aussi un petit peu de cette manière-là. Là, une touche en plus de la logique de pathos qui rend le... Donc, dans ce chapitre, vous évoquez le fait qu'au fond, la rencontre convoque une notion pour un homme, pour une femme, qui est le courage.
Oui.
Voilà. Commentez cette formule, ce mot que Lacan évoque. Jacques-Alain Miller parle d'héroïsme, de vouloir en savoir quelque chose de la rencontre, de cet impossible, de la différence avec l'autre. Donc, on voit comment, je trouve là vous montrer comment la rencontre est à penser dans le registre de l'éthique et pas de la psychologie, qui pourtant fait les choux gras. On vend à la brouette entière des ouvrages, vous remarquez, sur Mars et Vénus. Là, c'est une question d'éthique. Et donc, je me disais, est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe au cœur de la rencontre, qui est le suivant. Je dis, pour Aristote, par exemple, le fait que l'homme rencontre le un, c'est son corps. Cynthia Fleury et Yankelevitch évoquent le fait que c'est le courage qui m'isole dans mon être. Être courageux me convoque, fait que je suis seul à pouvoir répondre, ou pas. Lacan a évoqué la question de la honte. La honte renvoie quelque chose de sa solitude, et donc je me disais au fond, est-ce que la rencontre, le paradoxe, c'est que c'est pas précisément quelqu'un qui me fait rencontrer ma solitude.
Tout à fait.
Voilà, vous commentez effectivement cette notion d'exil, la rencontre est aussi une rencontre avec ma solitude.
C'est fort bien dit, en effet. C'est-à-dire que c'est... Ça se passe à l'envers de ce à quoi l'on pourrait s'attendre. C'est ce que vous appelez un paradoxe. Le courage vient de ce que, par le biais de cette rencontre, je soutiens ma solitude. Et le fait que je n'ai pas à attendre l'autorisation de qui que ce soit pour parler, pour prendre la parole, et que, en effet, l'on découvre que, alors que depuis longtemps l'on était si fragile, comment prendre la parole par rapport à telle ou telle personne dans tel lieu, eh bien, en effet, dès que je parle, je suis seul avec mon énonciation. Et c'est ça le paradoxe, c'est que cette position, eh bien, elle est plus encore fortement soutenue quand je ne suis pas seul, dans le sens où une rencontre a eu lieu. C'est presque comique. Enfin, il y a quelque chose de la comédie, là. Mais le savoir, c'est un affrontement. Le rapport au savoir, c'est un affrontement. Et cet affrontement exige en effet du courage. Lacan, lui, va plus loin en disant que quand il parle du courage, il dit que le courage d'une femme, c'est que justement, eh bien, quand elle rencontre un homme, elle rencontre un fantasme. Et chez un homme, le courage, c'est que quand il rencontre une femme, eh bien, ce qu'il découvre, c'est un mystère, une énigme. Jamais un homme n'aura un savoir sur une femme. Ça, c'est comme ça que je saisis cette fameuse proposition qui se trouve dans le dernier chapitre de Encore, elle aussi, proposition dans laquelle il dit que l'amour, c'est la rencontre entre deux savoirs inconscients. Ça signifie bien que je ne peux avoir aucun savoir sur cette femme. Et qu'un homme qui dit à une femme « Mais je te connais par cœur, je sais très bien ce que tu vas dire, etc. » C'est un homme qui se tient mal. C'est un homme qui retrouve sa chair éthique de célibataire. Un homme ne sait pas. Un homme amoureux ne sait pas. Il ne sait pas ce que elle va dire. D'ailleurs, ça peut provoquer chez lui quelques craintes. La jouissance est la jouissance pour un homme, la jouissance d'une femme est insaisissable, etc. Donc, en effet, remarquons cela, cet accent mis par le docteur Lacan sur cette solitude dont vous parlez. Vous pensez que il y a une rencontre entre Kierkegaard et Régine?
Alors, je vous ai préparé une deuxième construction, mais après, peut-être.
Alors, oui, alors, aussitôt, tu disais qu'une femme, un homme ne sait pas, au fond, ce qu'est une femme, et aussitôt, alors, parce qu'évidemment, j'ai passé autant de temps à lire ou relire d'ailleurs une partie de ton livre, puisque une partie que je connaissais, et aussi à lire, ou plutôt à relire, Le partage de midi. Et alors, dans Le partage de midi, Isée dit à Mésa, Mésa lui dit aux femmes entre mes bras, et Isée lui répond, tu sais ce qu'est ce qu'est une femme à présent, ce que c'est qu'une femme à présent. Donc on peut savoir. Alors après, elle développe, et il y a des choses, c'est vrai, puisqu'au fond tu citais le fait que Lacan disait, je me suis toujours demandé, alors il faudrait faire, je ne sais pas si quelqu'un entrepris ça, il faudrait faire une thèse sur Lacan et Claudel, comment sont-ils croisés, comment, etc., quels sont les rapports exacts. Et donc, c'est absolument décoiffant, Claudel, quand même, que ce truc qu'il écrit, donc, avec, puisqu'au fond, tout ton commentaire du séminaire 20 prend cher à partir de Claudel et du partage de midi, et avec ce fait que ce qui est frappant d'ailleurs, parce que c'est une constante qu'on retrouve aussi chez, enfin, que Gilson trouve chez Dante, c'est-à-dire chaque fois qu'on veut parler sérieusement d'une femme, c'est très difficile de ne pas parler de Dieu. ce qui est le cas de Dante et de Claudel. Et quand on croit parler de Dieu, on est complètement perdu, on ne sait pas de quoi on parle, jusqu'au moment où on rencontre une femme. Et là, on commence à avoir une petite idée de quoi il s'agit. Hein, c'est-à-dire, c'est ce qui se passe pour Dante et Béatrice. Alors vous me direz que le problème, évidemment, c'est que Béatrice est très jeune, mais enfin, ça fait... À l'époque, ça ne faisait pas les problèmes que ça fait maintenant. Et donc, ce qui se passe aussi pour Claudel, qui rencontre vraiment cette dame, Madame Wesch, qui a... Et alors, il y a tout un truc, d'ailleurs, qui aurait tout à fait... Je pense qu'il y a quelqu'un qui a fait quelque chose à nos journées, là, récemment, sur... c'est une mère.
Elle a trois enfants.
Elle a trois enfants, oui, c'est ça. C'est un petit peu, on a ça dans Goethe aussi, qui lui aussi rencontre une pseudo-mère avec des enfants. Mais alors, tout l'enjeu, c'est justement pas la mère. C'est-à-dire, c'est une mère qui n'a aucune vocation pour ça. Donc c'est déjà, c'est intéressant par rapport à la rencontre amoureuse, c'est-à-dire chercher une mère avec beaucoup d'enfants et si possible qu'elle n'ait pas trop la vocation pour ça. Parce qu'autrement, ça sature, c'est-à-dire il n'y a pas forcément place pour la rencontre. Et elle dit des choses donc, que je trouve particulièrement décoiffantes. Alors, c'est plus un commentaire. Tu me diras ce que tu en penses. Ce qu'elle dit, par exemple, parce qu'au fond, la question, c'est pourquoi est-ce que Lacan, ce sur quoi tu insistes, dit au fond le bon chemin, si on peut appeler ça comme ça, pour rencontrer une femme, ce n'est pas le fantasme. Ça, c'est l'autoroute. C'est l'autoroute, c'est-à-dire, c'est ce qui se... Enfin, c'est cette espèce, ce que soulevait Jacques-Alain Miller quand il évoquait cette espèce de règne de l'image, des écrans, et il faut bien l'avouer, d'une certaine pornographie, disons, dans tous les sens du terme. Et au fond, l'autre chemin, c'est de sortir du fantasme, ce qui est très difficile, et de passer par le symptôme. Alors, on dit le symptôme, c'est quand même quelque chose... Il y a l'idée, quand on est lacanien, que ce n'est pas quelque chose sur quoi on met la main facilement. C'est-à-dire, quand on dit aux hommes, mais au fond, quel est votre symptôme, même quand ils sont analysés, ils ont du mal. Ils ont du mal. Et au fond, Lacan dit, quand ça se passe bien, votre symptôme, c'est votre partenaire. Enfin, il dit ça aux hommes. Hein? Et au fond... C'est le symptôme, c'est une façon de donner un nom à une femme. C'est-à-dire, oui. Je ne sais pas si tu es d'accord avec ça, c'est-à-dire un homme permet à une femme de pouvoir se situer comme son symptôme à lui. Pas son symptôme à elle, mais son symptôme à lui. Ce qui fait dire à Lacan que, au fond, si vous avez envie de juger un homme, regardez avec qui il est marié. C'est vrai que c'est important. Solaire dit d'ailleurs qu'en général, les femmes s'intéressent à un homme dans la mesure où elles s'intéressent à leur femme. C'est très souvent le cas. C'est-à-dire cette espèce de chose très bizarre. Alors, j'en viens à ce que je voulais lire. Ce que dit Isée. Donc, alors, il faudrait aussi faire une parenthèse sur pourquoi Claudel... essayer désespérément comme ça de trouver le nom. C'est-à-dire, il a inventé des tas de noms et des noms de femmes pour essayer de trouver quel était le nom qui convient, c'est-à-dire de nommer la chose. Alors elle dit à Mesa, « Et il ne faut pas que je puisse comprendre mon Mesa, et il ne faut pas m'appeler par des mots que les autres savent, comme ma colombe tantôt, bien que ce soit doux. Et ma bien-aimée, que tu n'as pas dit, et laide, et bête, et vilaine, ce serait plus doux encore. Mais par de tels mots, si drôles, comme il y en a sans aucun bruit, que je ne puisse aucunement les comprendre, ou mon nom seulement, comme vous le dites, Isée, pour qu'il ne soit pas ailleurs que dans mon cœur, bien lourd, comme l'enfant inconnu qu'on porte lorsqu'on est grosse.
C'est magnifique.
C'est extraordinaire. C'est-à-dire, à quoi sert un homme ? Ça sert à vous donner le nom que vous avez, mais que tout d'un coup vous portez, mais comme on porte un enfant. Donc ça, je trouve, ça dit bien peut-être l'enjeu de la rencontre, c'est-à-dire cette dimension où quelqu'un permet à ce que surgisse cette dimension du symptôme. Alors pourquoi est-ce que cette dimension du symptôme doit forcément se situer du côté du ventre, fait qu'il y a un retour par la porte de derrière de qu'est-ce que c'est qu'une femme et de la mère peut-être.
Et l'on voit bien que ce que cherche à faire Isée, c'est à lui apprendre à parler, mais à parler de ce qui intéresse chacun et chacune. Parce que il pourrait parler pendant des heures, certainement, d'un certain nombre de choses. Mais en effet, elle aimerait bien qu'il lui parle selon son quoi, selon sa sensibilité à elle. Dans l'un de ses tout derniers séminaires, Lacan a pu dire à un moment donné ce qu'il peut arriver de mieux à une femme, c'est qu'un homme lui parle selon son fantasme fondamental à elle. Lui parle. Et donc là, ce qu'elle cherche à faire, c'est elle le prend par la main en quelque sorte pour qu'il apprenne à parler. Et je pense que pour un homme, en tout cas, je crois que les sujets féminins dans l'assemblée pourront dire comment ça se passe pour elle. Mais pour un homme, il y a deux choses qu'il apprend. Un homme ne sait pas parler, c'est clair. Jacques-Alain Miller est très sévère à cet égard. Je pourrais rapporter de certains de ses termes. Un homme, il apprend à parler dans deux aventures, celle de l'analyse et celle avec une femme, justement. Et c'est comme ça que je saisis pourquoi Lacan peut dire, à propos d'Isée, d'où le choix d'Isée, sur le fond de ce que l'on peut remarquer, c'est que Lacan dit que dans la littérature, il est très difficile de parler, de trouver une femme. À un moment donné, il dit que pourtant que chez Balzac, il y a la langue du XVIe siècle, mais que lui, il ne trouve pas que Balzac ait donné, malgré la femme de 30 ans, malgré la duchesse de Langeais, malgré tout ce que vous voulez, qu'il ait bien saisi une femme, qu'il en ait. Donc, le fait que Lacan puisse dire « Là, Claudel, avec Isée, là, il s'approche vraiment de ce que c'est qu'une femme. » Donc, c'est ça qui fait que quand on entre dans le partage de midi, on rencontre en effet une femme selon Lacan. Alors ce que je me demande, c'est que du coup, c'est quand on connaît un peu le personnage de Claudel, qu'est-ce qui chez Claudel a fait que il ait eu cette sensibilité-là, ce sens-là. Alors là, est-ce que c'est cette femme qui...
C'est une rencontre qui n'était pas fictive, donc
ouais.
Il a vraiment rencontré cette femme et vraiment, il s'en est souvenu très longtemps.
C'est ça. Est-ce que c'est cette femme qui lui a appris quelque chose?
Alors moi, ce qui m'a frappé en relisant les commentaires et tout ça s'était passé, et on voit enfin tu connais l'histoire sans doute, donc il écrit ça très tôt au début du siècle, et son confesseur lui dit surtout ne publiez jamais ça, et donc il finira par attendre presque 40 ans pour finir par le publier, parce qu'on le supplie, et tout, c'est une époque formidable. Ça, c'est une époque où tous les gens vous suppliez de faire des choses, et maintenant, on supplie vraiment dans l'autre sens. Et au fond, il ne l'a pu... Enfin, il ne l'a produit qu'en changeant la langue. C'est-à-dire en le réécrivant entièrement et pour tordre le langage d'une façon où ça devienne un langage ordinaire. Ce que ça n'est pas. Mais ça vise le langage ordinaire. Et je me suis dit, au fond, quand même, que pour arriver à la rencontre, il faut arriver à enfin, ce qui est la poésie, mais peut-être la logique aussi, c'est-à-dire à tordre la langue. À lui faire dire des choses que normalement elle ne peut pas dire.
Tout à fait.
Tu es d'accord avec ça? Et moi, ça m'a paru vraiment très, très frappant, et y compris ce que tu disais, c'est étonnant, parce que là, il y a ce qu'il y avait avant, ce que j'ai dit, où elle dit au mont Mésa, tu n'es plus un homme seulement, mais tu es à moi qui suis une femme, et je suis un homme en toi, et tu es une femme avec moi, et je cueille ton cœur sans que tu saches comment. C'est-à-dire, c'est tout à fait... C'est-à-dire que la rencontre fait que on voit comment ça supplée aussi. Il n'y a pas de rapport sexuel, il n'y a pas d'homme, il n'y a pas de femme, ça veut dire ça aussi. Sauf à un moment où quelque chose de la rencontre distribue les rôles pour un instant fugitif, d'ailleurs. Hein, tu es d'accord?
C'est tout à fait ça.
Alors, comment faire pour que le fugitif reste pas trop fugitif?
Alors attendez, parce que moi je vais préparer une deuxième construction.
Question.
Alors c'est très drôle parce que je me suis dit, il ne s'attendra pas du tout à ce que je lui parle de Kierkegaard, puisqu'il n'en est pas vraiment question et qu'il connaît très bien Kierkegaard. Et je me retrouve en fait avec une question sur Kierkegaard. Votre livre m'a fait le demander, mais puisque vous décrivez très bien ce qui se produit, et même logiquement d'ailleurs, à l'instant de la rencontre. Alors évidemment, voilà.
Ça vous parle l'instant?
Absolument. Alors je me suis dit, mais au fait, est-ce qu'on sait quelque chose de l'instant d'une de ces grandes histoires occidentales, qui sont celles de Kierkegaard avec Régine, qui est aussi une très jeune fille quand il se rend compte, il en a 24, on est en 1837, et elle en a 14. Alors, qu'est-ce qu'on en sait? Depuis une dizaine d'années, il y a une correspondance de Kierkegaard qui a été publiée, d'ailleurs quelques mois avant que moi je finisse, enfin j'avais fini mes travaux dessus, et j'ai essayé de retrouver ce qu'on présuppose être la première lettre après la rencontre. Alors voilà, vous vous associerez comme vous voulez, mais c'est très drôle parce qu'on a la possibilité de confronter deux petits témoignages un peu discordants. Donc la première lettre de Kierkegaard qui écrit donc à Régine, première, deuxième, « Ma Régine ». Quel n'est pas le charme d'un regard expressif sur un visage? Quelle n'est pas la magie de l'œil qui saisit le moindre signe? Tout se passe comme si l'un lisait avec les yeux ce que l'autre écrit avec les paupières. L'œil a pourtant ses limites, car l'écriture des paupières ne peut se lire à distance. On ne peut la comprendre qu'en se tenant au plus près. Mais quelle n'est pas la vitesse de la pensée lorsqu'elle s'élance avec la toute-puissance et la concentration de l'esprit, telle la flèche décochée depuis l'arc bandé? Quelle n'est pas sa légèreté, sa beauté, lorsque, donc la puissance de la pensée, s'élève et tel un faucon plane sur son objet, l'agrippe, le maintient de sorte que plus rien ne peut l'en arracher. Et ça continue. Ce qui est très drôle, c'est que Régine, 60 ans plus tard, 1898, c'est une dame qui a 80 ans, Kierkegaard est mort enterré depuis 50 ans, son mari vient de décéder. Ce qu'on connaît moins, c'est que, donc, comme elle est veuve, elle redevient dans l'actualité l'éternelle fiancée de Kierkegaard. Et elle tient à faire une mise au point. Donc elle convoque un monsieur qui s'appelle Raphaël Meyer et elle parle avec lui de ce qu'a été, au fond, de son point de vue, la rencontre avec le solitaire de Copenhague. Alors c'est une prise de notes, évidemment c'est une dame de 80 ans qui raconte ce qui s'est passé à l'âge de 14 et c'est raconté par une autre main. Mais enfin, il y a juste ceci, donc de son point de vue, elle se rappelait avoir vu Søren Kierkegaard pour la première fois alors qu'elle était fillette et n'avait pas encore été confirmée. Il lui fit tout de suite une très forte impression qu'elle ne laissa pourtant pas voir. Elle se rappelait encore qu'il parlait sans cesse, que sa parole coulait en quelque sorte de source et était captivante au plus haut point. Donc je ne prétends pas dire ce qu'a été la rencontre entre Kierkegaard et Rune, mais c'est très drôle comme on a quand même une rencontre d'un côté un regard et de l'autre des oreilles. Voilà.
C'est magnifique. C'est très bien dit. Puis on entend bien ce dont il s'agit, effectivement.
Eh bien, il nous reste à remercier Pierre Naveau d'être venu nous présenter son livre et la librairie Mola de nous avoir permis de l'entendre.